الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous continuons ces cours de tafsir, de lecture du Coran et de leur explication, leur exégèse en langue française. Et nous finissons sourate Al-Fath, Inch'Allah. Nous en sommes au verset 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Dans le verset 27, Allah تبارك وتعالى dit dans le sens de sa parole, Allah confirme par la vérité la vision de son messager. Vous entrerez en toute sécurité dans la mosquée sacrée par la volonté d'Allah, la tête rasée ou les cheveux coupés, et vous n'y aurez nulle crainte. Il savait ce que vous ne saviez pas, et Allah vous a donné d'abord une victoire immédiate ou proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la juste direction et avec la religion de vérité, qu'il fera triompher de toute autre religion, et Allah suffit comme témoin. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce ici qu'il a confirmé le songe, le rêve du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une vision, d'un rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu à Médine, à la suite duquel il avait annoncé à ses compagnons qu'ils allaient entrer à la Mecque et faire le tawaf. Mais après ce qui se passa à Hudaybiyah, car ils n'ont pas pu entrer, et que les musulmans retournèrent à Médine sans pouvoir entrer à la Mecque et sans pouvoir faire le tawaf, certains d'entre eux ont fait des commentaires. Parmi eux aussi Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit: ne nous as-tu pas promis au messager d'Allah qu'on va entrer à la Mecque, on va faire le tawaf? Et voilà au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: est-ce que je vous ai dit que ce serait cette année? Effectivement, ils ont dit non. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous y entrerez en toute sécurité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala confirma ce songe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants savaient que cela se réalisera inexorablement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus l'année d'après faire le tawaf. Et ils y entreront donc en toute sécurité, par la volonté d'Allah. Ils entreront dans la mosquée sacrée, les têtes rasées ou taillées, c'est-à-dire après avoir accompli les rites de la Umrah. Et Allah tabaraka wa ta'ala savait qu'en retardant cela, il y avait un intérêt et une chose que les musulmans ignoraient. Et souvent Allah tabaraka wa ta'ala retarde une chose que l'on veut, retarde un bien que l'on veut, mais il y a une sagesse derrière cela et un grand bien plus grand qui nous attend. Donc il leur a donné une victoire proche en échange de cela. Puis après cela, ils sont rentrés à la Mecque faire le pèlerinage. Et en même temps, il y a eu ce pacte de paix qui a été signé et beaucoup de la majorité des tribus en Arabie ont accepté l'islam. Donc, cela a été un très grand bien. Cela a été la cause que l'islam se répande dans toute la péninsule arabique. Et ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a destiné, de par sa sagesse, est un bien même si cela nous échappe. Cela échappe aux croyants. Et parfois, on voit dans le futur certains avantages, certaines sagesses de pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a retardé certaines choses que l'on voulait ou certaines choses de bien. Comme parfois on peut ne pas les voir tout de suite, mais il est sûr qu'on les voit, on verra leurs effets dans l'au-delà. Mais quoi qu'il arrive, le musulman sait que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a destiné, c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah et c'est du bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est du bien pour lui. Quoi qu'il arrive, c'est du bien pour lui. C'est du bien pour lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala a promis de faire triompher sa religion. Avec nous ou sans nous. Que l'on le voit de nos yeux ou que l'on ne le voit pas. Allah tabaraka wa ta'ala a promis dans le Coran que sa religion prendra le dessus sur toutes les religions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura pas une maison sur terre où l'islam ne va pas entrer. Pas une maison sur terre. En élévant et en honorant ceux qui vont l'accepter et en rabaissant ceux qui vont la refuser. Pas une maison, même les maisons de campagne, même les tentes. L'islam va entrer partout. Donc, alhamdoulillah, parfois le musulman est triste de voir, par exemple, la faiblesse des musulmans, ou la faiblesse de la religiosité des musulmans, où il voit une certaine faiblesse de la religion, où il voit que la religion baisse, par exemple, mais qu'il n'ait crainte. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ne disparaîtra jamais. Jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala va faire triompher sa religion. La question est, vas-tu faire partie, toi, des vainqueurs ou des perdants? C'est ça la question. Mais la religion va triompher, ça c'est sûr. La religion ne va pas perdre. Et les gens de la religion ne vont pas perdre. Et les gens de la vérité seront les vainqueurs. Sans aucun doute. La bonne fin leur est destinée. Mais la question qui se pose, et ce sur quoi tu as ta responsabilité, vais-je faire partie de ces gens-là ou non? Tout simplement. Vais-je faire partie de ce qu'Allah a honoré pour apprendre et défendre sa religion ou non? Ou je vais faire partie des mahzoulines, de ceux qui ont été délaissés et rejetés? Qu'Allah nous en préserve. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, si vous vous détournez, Allah va vous échanger avec un autre peuple qui ne sera pas comme vous. Qui ne sera pas comme vous. Qui, eux, donneront de l'importance à leur religion. Qui, eux, seront prêts à donner leur personne, leur âme, tout ce qu'ils possèdent pour la religion d'Allah. Si vous ne voulez pas, d'autres le feront. Et Allah tabaraka wa ta'ala a promis qu'il va instaurer la religion de vérité, qu'il va la faire prévaloir sur toutes les autres religions, et que cette religion avec laquelle il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la vérité qui vaincra et qui restera. Puis, dans le verset 29, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur certaines qualités et caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il dit Mohammed est le messager d'Allah. Dans le sens de sa parole, bien sûr, en français. Mohammed est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de miséricorde et de mansuétude les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Leurs marques distinctives sont visibles sur leur visage par l'effet de la prosternation. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans la Torah. Tandis que dans l'Évangile, ils sont comparés à la semence qui laisse surgir ses pousses, devient une plante vigoureuse, généreuse et ferme sur sa tige. Un grand bonheur du cultivateur. Allah les a fait tels pour en faire mourir de rage les mécréants. Et il promet à ceux qui parmi eux ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le pardon et une immense récompense. Donc regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala décrit les messagers, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il informe donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parmi les muhajirin et l'ansar possèdent les meilleures des vertus et les plus majestueuses des caractéristiques. Il explique comment ils se comportent avec les mécréants, comment ils sont avec leurs frères musulmans, et comment elle est leur relation avec leur créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont durs et déterminés et fermes face aux mécréants. C'est-à-dire qu'ils sont fermes dans leur position et fermes dans leur opposition aux mécréants, dans leur croyance et dans la voie qu'ils empruntent, et qu'ils ne faiblissent jamais et qu'ils ne font aucune concession. Et c'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné le dessus sur leurs ennemis et qu'il leur a donné le triomphe. Ils sont pleins de mansuétude et de compassion entre eux, c'est-à-dire entre musulmans. Ils sont solidaires, comme un seul corps. Chacun aimant pour son frère ce qu'il aime pour lui-même en bien. Tel est leur comportement avec les créatures. Pour ce qui est de leur comportement envers leur créateur, on les voit s'incliner et se prosterner, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés pour leur fréquence à accomplir la prière et l'adoration d'Allah, dont les fondements les plus importants sont l'inclinaison et la prosternation. Ils aspirent en cela, à travers ces adorations, à travers ce comportement, la grâce et le pardon d'Allah. Ils aspirent à la grâce et au pardon d'Allah. Et leur but est d'obtenir la satisfaction de leur Seigneur et d'être récompensés pleinement dans l'au-delà. On les reconnaît aux effets de la prosternation sur leur visage, c'est-à-dire que leur visage est illuminé par l'effet de l'adoration et de la prière et de la prosternation. Car leur fort intérieur est illuminé par la foi, par la grâce de cette prière. Leurs apparences sont aussi illuminées par la majesté et la dignité. Telle est leur image décrite dans la Torah. Ils sont aussi décrits de cette manière dans la Torah. Tandis qu'ils sont décrits dans l'Évangile d'une autre manière. Ils sont comparés à une semence qui germe, se gonfle de sève, c'est-à-dire une semence qui a sorti ses pétales, lesquels se sont développés et ont pris de l'ampleur et de l'élévation. Ainsi, pour grandir et se dresser sur sa tige, c'est-à-dire que cette semence s'est renforcée et fortifiée dans ses racines, faisant l'admiration des laboureurs et des agriculteurs. En raison de sa perfection et de son ajustement et de son excellence et de son harmonie. Il en est ainsi des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhum, qui étaient pareils à une semence dans leurs avantages au profit des créatures et dans le besoin des hommes de leurs vertus. La force de leur foi et de leurs actes est pareil à la force des racines de la semence et de leur tige. Le fait que le jeune homme dont la conversion fut tardive eut rejoint le plus âgé et ancien, les aider et assister à faire établir la religion d'Allah et à appeler les gens à elle, et comme la semence qui germe se gonfle de sève et grandit pour se dresser sur sa tige. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens « et soulevant le courroux des infidèles, mettant la rage aux mécréants », c'est-à-dire quand ils voient leur solidarité, quand ils voient leur attachement à leur religion, lorsqu'ils les affronteront en bataille, ils auront la rage de les voir aussi forts, aussi solidaires, aussi attachés à leur religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a promis une très grande récompense, et il a promis à ceux qui croient et effectuent les bonnes œuvres salutaires parmi eux un pardon et un immense salaire. Voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhum, qui ont réuni entre la foi et les bonnes œuvres. Allah réunira pour eux entre le pardon qui leur évite les malheurs de ce bas monde et de l'au-delà, et la récompense considérable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous demanderons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous imprégner aussi de ces qualités pour pouvoir mériter aussi ces grandes récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi s'achève donc sourate Al-Fath, et je vous encourage à lire dans les livres de sirah, de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire entière du pacte de Hudaybiyya, maintenant qu'on a vu le tafsir qui décrivait plusieurs parties, plusieurs situations de ce pacte, pour mieux comprendre, inshallah, les différents versets de cette sourate, qui tout au long de cette sourate, on a expliqué plusieurs étapes et plusieurs situations qui se sont passées au pacte de Hudaybiyya, qui a été une victoire en vérité pour les croyants, même si en apparence, c'était une défaite. Il est rapporté que pendant que Suhail a été envoyé des Quraishites pour signer le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un croyant s'est enfui de la Mecque enchaîné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas encore signé le pacte, laissez-le venir à nous. Parce que vous savez que dans le pacte, il était stipulé que toute personne qui s'enfuyait de la Mecque qui entrait en islam, il devait être rendu au Quraysh. Et le contraire, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais une exception pour lui. On n'a pas encore signé le pacte. Il a dit non, il n'y a pas d'exception. Il a insisté et il ne l'a pas voulu. Et voilà que ce compagnon a crié son désespoir. Il dit, je me fais châtier, ne me laissez pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait plus loin. Et malgré cette douleur de voir un de ses compagnons se faire châtier, mais il voyait en cela un intérêt général pour tous les musulmans. Et ceci a été vrai. Donc il n'a pas pu le récupérer. Il l'a laissé aux Quraishites et il a signé ce pacte. Et ce pacte a été la cause de la victoire qui est venue plus tard sur la Mecque. Donc vous voyez, parfois, il y a des situations très affligeantes où le musulman est amené à faire quelques concessions qui ne sont pas des concessions sur la religion en elle-même, c'est-à-dire le halal, le haram, mais quelques concessions de dunya ou quelques concessions sur le fait de ne pas pouvoir secourir ses frères comme il devrait le faire, pour pouvoir venir plus fort et les secourir comme il faut, pour un intérêt plus grand, général. Car essayer de secourir quand on est faible et quand à la fin ça va mener, il y en a un qui se faisait châtier, à la fin il y en a 150 qui se font châtier, il n'y a pas d'intérêt. Mieux vaut attendre pour revenir assez fort pour se débarrasser complètement de ses oppresseurs et faire cesser définitivement l'injustice, et non pas temporairement. Bon, bien sûr, si quelqu'un il peut diminuer le mal que ses frères subissent, il le fait. Mais si son action ne va faire qu'empirer leur situation ou empirer la situation d'autres musulmans avec eux, dans ce cas-là, il ne le fait pas. Car il nous est demandé, quand on ne peut pas faire ce qui est juste, de ne pas aggraver la situation. Et si on a le choix entre deux choses mauvaises, on en choisit la moins mauvaise. Celle qui est moins nuisible, ou moins haram, ou les moins mauvais effets sur les musulmans, sur l'islam et les musulmans. Qu'Allah nous guide et nous illumine de la foi et de la science utile et nous permette de la mettre en pratique et unisse les musulmans sur la piété et la crainte. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.